Tout de suite des informations avec Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à toutes. L'Espagne qui retient son souffle à moins de 24 heures désormais du référendum d'autodétermination catalan. Référendum plus que jamais interdit par Madrid. 10 000 membres de la garde civile espagnole sont déployés pour empêcher la tenue du scrutin dans ces 2300 bureaux de vote. La plupart sont occupés depuis hier soir par des volontaires catalans qui s'y relaient pour empêcher justement la police de les déloger. Un autre référendum qui commence à peine à mobiliser en Irlande, consultation populaire prévue en mai ou juin prochain sur un possible élargissement du droit à l'avortement. Pour l'heure, le 8e amendement de la Constitution irlandaise prévoit un droit égal pour la future mère et pour le fœtus, interdiction totale donc de l'IVG, récemment réformée tout de même pour permettre l'interruption de grossesse en cas de menace pour la vie de la mère. C'est encore trop peu pour les dizaines de milliers de manifestants attendus aujourd'hui dans les rues de Dublin, Julien Lagache.
Les organisateurs entendent rassembler plus de 30 000 participants cette année, un chiffre historique pour le mouvement qui pourrait alors revendiquer une dynamique, mais pas le nombre, car du côté des anti-avortements, c'est plus du double qui avait défilé cet été pour célébrer le 8e amendement de la Constitution. Sauf que les mobilisations ne disent pas grand-chose des évolutions de la société en Irlande. Si près de 3 personnes sur 4 souhaitent un droit à l'IVG pour les femmes victimes de viol ou d'inceste, elles sont aussi 2 sur 3 à rejeter les critères sociaux ou économique comme motif pour avorter. La tendance est donc plutôt à une volonté mesurée d'élargir le droit actuel et la sphère politique n'est pas en reste. Le jeune Premier ministre estime qu'en l'état la législation est trop restrictive, mais il rejette l'idée qu'un enfant à naître ne devrait disposer d'aucun droit. Leo Varadkar, premier chef de gouvernement ouvertement homosexuel du pays, avait été en première ligne lors du référendum sur le mariage pour tous, voté à 62% en mai 2015. Les pro-avortements espéraient capitaliser sur le succès de ce scrutin pour rallier l'opinion sur la question de l'IVG. Il s'inquiète aujourd'hui de voir les autorités camper sur des positions plus conservatrices.
Julien Lagache à Dublin pour France Culture. La guerre en Syrie et ses raids aériens qui ont tué au moins 28 civils, dont 4 enfants, la nuit dernière dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette région du nord-ouest de la Syrie est l'une des zones dites de désescalade du conflit défini dans l'accord entre le régime de Damas, la Russie et la rébellion. On ignore encore si les avions qui ont bombardé le secteur et tué des civils appartenaient à l'aviation russe ou bien à l'aviation syrienne. L'actualité française ce matin, c'est ce désaveu cinglant pour Jean-Claude Mailly, le secrétaire national de Force Ouvrière, mis en minorité par le Parlement de son syndicat hier soir. La base militante qui veut participer à la mobilisation contre les ordonnances sur le code du travail, Mailly, lui, s'y était opposé. Il refuse pour autant de démissionner, mais se dit prêt à porter la nouvelle ligne de FO et à discuter donc directement avec la CGT, l'UNSA et Solidaire pour l'organisation d'une journée d'action commune. La politique, c'est cette affluence inédite à l'université de rentrée du Modem. 700 participants attendus tout le week-end à Guidel dans le Morbihan. Le Modem, renforcé par son alliance avec La République En Marche, malgré la sortie du gouvernement Philippe de ses ministres, qui entretient une vague d'optimisme dans ses rangs, Stéphane Robert.
En déclarant ouverte l'université de rentrée du Modem hier soir, François Bayrou n'a pas boudé son plaisir.
Je ne me souviens pas d'une séance d'ouverture où il y a eu autant de monde.
Le Modem semble aujourd'hui en pleine résurrection, car grâce à son alliance avec Emmanuel Macron, il a fait élire 47 députés à l'Assemblée nationale. Beaucoup sont des novices, comme Erwan Balanant, député du Finistère.
J'ai un peu les pétoches quand même, mais bon, ça va. Non, vous dire plus sérieusement, ma fierté d'appartenir aujourd'hui à cette majorité présidentielle et à ce groupe Modem.
Une fierté qui s'entendait également à travers les mots du tout nouveau secrétaire général du parti, Yann Verling.
Vous savez tous maintenant, pour la plupart, que je suis le nouveau secrétaire général de ce mouvement. Et c'est pas donné à tout le monde de devenir secrétaire général d'un parti de gouvernement. Parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui.
Dans cette euphorie générale, il y a eu nombreux tableaux. François Bayrou n'est plus ministre. Mais il ne manque pas une occasion de rappeler qu'il l'a été.
À Guidel, il y a un habitant particulier, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui habite à Guidel et qui m'a appelé pour dire qu'il était à Abidjan. Il m'a appelé il y a une heure pour me demander de vous transmettre ses amitiés.
Et qu'il tutoie chacun des membres du gouvernement.
Stéphane Robert, et j'ajoute que Yann Verling, qu'on entendait tout à l'heure, sera l'invité du journal de 12h30 tout à l'heure sur France Culture. Il est 9h passé de 5 minutes. Et c'est l'heure, vous le savez, de retrouver notre chronique du samedi, le numérique. Et nous, ce matin, Catherine Pétillon pose la question « Où sont les femmes dans l'incontournable encyclopédie participative en ligne ?» J'ai nommé Wikipédia.
À la fin de la journée, Wikipédia comptera quelques articles de plus concernant des femmes, leurs œuvres ou leurs travaux. Le lieu culturel La Gaîté Lyrique organise simultanément à Paris, Bourges et Bruxelles un marathon d'éditions. On appelle ça parfois un éditathon. Le principe est simple, se réunir pour s'initier aux techniques d'édition de l'encyclopédie en ligne et créer ou améliorer des articles. Si ce type d'événement se multiplie à travers le monde, c'est parce que la situation est désormais bien connue, les femmes sont les grandes absentes de Wikipédia. Et cela à tous les niveaux. Cette encyclopédie en ligne peut être rédigée par tous, de façon bénévole, collaborative et neutre. Seulement voilà, les femmes ne représentent que 10% des personnes qui l'écrivent. Le contributeur type est un homme blanc de 30 ans, très diplômé. Or, ce qui est vrai ailleurs se vérifie en ligne. Le profil des auteurs se reflète dans les contenus. Pour ne citer qu'un chiffre, sur les 450 000 biographies que l'on trouve sur le Wikipédia francophone, seuls 16% concernent des femmes. Une faible présence que l'on retrouve d'ailleurs au fil des articles. Il suffit de regarder les pages acteurs, héros ou DJ pour voir qu'il n'y a pas ou peu de femmes citées. Un problème de représentativité donc, mais aussi de représentation, les femmes étant encore souvent décrites via des stéréotypes. Le phénomène, connu sous le nom de biais de genre, inquiète la Wikimedia Foundation elle-même, qui soutient des actions pour y remédier, mais sans grand changement pour l'heure. Un enjeu de taille quand on pense que Wikipédia est lu chaque mois par plus de 400 millions de personnes, ce qui en fait le 6e site le plus consulté au monde. Si l'encyclopédie est ouverte à tous, alors pourquoi les femmes y sont peu? Pour ce qui est d'écrire, parmi les causes identifiées, moins de temps libre pour le faire, le sentiment d'une légitimité moindre. Mais s'agissant des contenus, intervient le processus même de publication de Wikipédia. Pour créer un article, il faut s'appuyer sur des sources extérieures, préexistantes. Autrement dit, pour écrire sur une femme, il faut que l'on ait déjà parlé d'elle ailleurs. Dans ces conditions, difficile de faire sortir de l'oubli un certain nombre d'entre elles. Mais à leur échelle, les participants aux éditathons s'efforcent, page après page, de faire évoluer Wikipédia.
Catherine Pétillon et cette chronique « Le numérique et nous » que l'on retrouve pas encore sur Wikipédia, mais bien sur franceculture.fr. Côté météo, en fin matinée pluvieuse des Pyrénées aux frontières belges, des éclaircies sur les Charentes, le centre et peut-être sur la région parisienne, mais ça va se gâter de toute façon dans l'après-midi. Les températures devraient être beaucoup plus fraîches qu'hier, avec pas plus de 15 à 22 degrés pour les maximales. Les journaux de cette matinée étaient préparés avec M. Le Chili. C'est Anne Fauquemberg que vous retrouverez à 12h30.